Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast numéro 62 et après une semaine exceptionnelle, hein, mercredi dernier avec
exclusive, en invité
exclusif, bien sûr, Hideo Kojima, Yoji Shinkawa et Yumi Kikuchi. Ça nous avait vraiment fait plaisir de vous offrir cette interview exclusive, hein, dans les podcasts de Gameblog.fr. Eh bien, nous allons revenir à la tradition, hein. Partir sur une thématique plus intemporelle, on va dire. Et pour ça, eh bien, pas de Kojima autour de la table à repasser, désormais la plus célèbre de l'univers Internet. Eh bien, je reçois Julien Hubert, alias Julo.
Bonsoir.
Angel Davila, alias Angel.
Voilà.
Raon Schriftgeiser, alias Grégory Schriftgeiser. Et Arnaud Chaudron, alias Caf ou Caféine, au choix. Hein. Vous faites votre popote.
Column.
Voilà, on va dire ça. D'ailleurs, juste avant de commencer ce podcast, un grand merci. Ça nous a vraiment fait plaisir d'en rencontrer énormément d'entre vous samedi dernier lors du Loft in Game, premier épisode des Loft in Game. Donc, ce grand rendez-vous qui sera organisé à partir du mois de septembre tous les mois et qui, on l'espère, et on va tout faire pour en tout cas, va vadrouiller à peu près partout dans la France. Parce que, bien évidemment, c'est ce qui est prévu et c'est pas un événement qui sera élitiste parisien. Au contraire, les joueurs, on sait que vous êtes très nombreux à être dans le sud, dans le nord, on ira passer vous voir, puis même ceux qui sont dans le centre, même si au niveau des trains, c'est pas très bien desservi.
Je sais pas, je parle.
On ira en avion ou en hélico, c'est pas grave.
En tout cas, c'est vachement bien, puis on est vraiment fiers de vous, de notre communauté. Vous êtes classe, vous êtes sympathique, vous discutez avec envie, et c'est ce qui nous fait vraiment plaisir et ce qui nous motive d'autant plus pour continuer eh bien, l'aventure Gameblog et à la fois aussi ces podcasts exceptionnels qui vous font kiffer tout comme nous.
Et exclusifs.
Exclusif.
C'est important.
On sait toujours pas le sujet.
C'est ça l'art du teasing, puisque le podcast numéro 62 sera dédié à quoi ? Eh bien, à un sujet qui vous fait parler très fréquemment et qui forcément vous intéresse, c'est le prix des jeux. Faire un point sur cette barrière du prix. Est-ce que ça a augmenté ? Est-ce que le pouvoir d'achat est mis en danger par l'inflation du coût des jeux vidéo ? En tout cas, du prix des jeux en eux-mêmes, eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant, tout de suite, vous dans vos oreilles, dans vos iPods, dans vos baladeurs MP3 ou sur vos ordinateurs. Messieurs, qui veut ouvrir le bal ? Et avant d'ouvrir le bal, je lance donc la question, la thématique. Est-ce que c'est vraiment si cher que tout le monde le dit ? Ou est-ce que finalement, c'est un peu biaisé par le simple fait que l'euro a un peu faussé la donne ? Angel Davila. Au nez bronzé.
Exact. Tout dépend de ton pouvoir d'achat, je dirais.
Mais ça, c'est la perception du prix. Mais est-ce que globalement, en fait, est-ce que c'est vrai de dire on, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes s'accordent à dire les jeux ont augmenté. Est-ce que c'est vrai ?
Ouais, les jeux ont augmenté. Dans mes souvenirs, oui. Ouais, enfin les jeux ont
augmenté. Comme le prix de la baguette.
Mais comme le prix de la baguette, enfin rapport à l'inflation, mais pour plein de raisons différentes en plus. Mais de toute façon, alors moi je reviens à la question originale quand même, les jeux vidéo sont-ils chers ? Oui, à partir du moment où les jeux vidéo sont quand même destinés à un public jeune. Et quand t'es jeune, t'as pas forcément...
Ça a évolué,
ouais,
ça.
C'est ouais, même, non, mais ça a évolué, non mais d'accord. Mais
la bon, cible enfin, numéro un aujourd'hui, c'est,
non, mais
c'est nous. Hein.
Non mais d'accord, oui.
On
n'est
pas des
c'est
jeunes
lui,
non
mais
plus,
quand,
hein, alors, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Ouais, papy.
Mais quand tu commences à jouer, tu commences pas à jouer à 25 ans, tu commences à jouer avant. Après, soit tu continues, d'accord, mm-hmm. Mais quoi qu'il se passe, tu commences à jouer.
Généralement, c'est papa-maman qui paye quand même.
Et c'est bien ce que je suis en train de dire, si on veut la se terminer. On va pas commencer la guerre. et donc, comme t'as pas de sous et que tu dépends donc uniquement de ton argent de poche, 70 euros, c'est difficile à sortir. Et le prix d'une PS3, je vous raconte même pas, quoi, c'est encore plus dur.
Alors, ce serait intéressant, effectivement, là, quelques petites. Notion clé, quelques points clés. Là, donc, Angel disait le prix a augmenté. On va voir que c'est pas si évident que ça. On a vraiment récupéré pas mal de chiffres sur des prix qui prennent en compte l'inflation et d'autres qui ne le prennent pas. Est-ce qu'aujourd'hui les consoles finalement sont plus chères que ce qu'elles n'étaient il y a encore 10 ans ? Bah, vous allez voir que c'est pas si évident que ça, hormis certaines. Avec un E, par exemple, comme une PS3, qui effectivement quand même reste assez cher, mais enfin d'autres se situent dans des fourchettes qu'on a connues par le passé. Par exemple, allez, on rentre dans les chiffres. Si on part un petit peu en arrière, parlons par exemple, commençons avec la Super Nintendo. La Super Nintendo, si on parle sans inflation, à l'époque coûtait $200. $200, ça paraît pas beaucoup aujourd'hui, mais il faut savoir que par exemple la PlayStation, première PlayStation du nom, sortie en 95,
attends,
c'était déjà 300
déjà si
dollars.
C'est $200, si tu prends en compte l'inflation, aujourd'hui ça se rapproche de $300.
Non, c'est sans prendre l'inflation, Shrivy Geezer.
Oui, justement. Mais
inflation not taken
oui,
into consideration.
Oui, justement, ces $200 là que tu donnes, mm-hmm. c'est les $200 d'époque.
Oui.
Si tu les remets dans le contexte actuel en prenant donc en compte l'inflation,
ah oui, mais parce
ça
que...
se rapproche de $300.
Parce que j'allais d'abord comparer avec sans les inflations.
D'accord.
Voyez-vous, monsieur. Parce que finalement, c'est pour se rendre compte vraiment à quel prix étaient lancées ces machines. Ce qui est okay. intéressant aussi. Donc, on a dit $200 pour la PlayStation, la Super Nintendo, 300 pour la PlayStation. La Saturn était plus chère, 400. La Nintendo 64, c'était $200. La Dreamcast, $200. PlayStation 2, $300. GameCube, $200. Xbox, $300. Xbox 360, $300 ou $400 en fonction de la version. Et $500 ou $600 pour la PlayStation 3. On voit que, hormis quelques consoles par génération, les prix sont toujours avoisinant entre 200 et $300.
Citons peut-être quand même les plus chers.
Voilà, si tu supprimes à chaque fois une console par génération, donc la PlayStation 3 dans cette génération, la PlayStation 2 dans la génération précédente et la Saturn dans la génération encore d'avant.
Mais les consoles les plus chères de tous les temps entre 76 et 2006, c'était donc pas certainement pas la PS3
non.
déjà. C'était plutôt la Neo Geo.
Mm-hmm. $650.
Non.
Bah si, c'est les chiffres que je vois devant mes yeux.
Moi je les regarde en train de...
La Neo Geo, 650
en train de regarder le même graphique en fait et on voit pas la même chose.
Et la non, 3DO, vous êtes... $700.
Moi j'ai un indice.
Ah bah oui,
sans inflation.
Sans inflation. Voilà. Parce que justement, après
donc,
on va
de toute façon, 3DO et Neo, c'était les consoles les plus chères...
Ah oui, et de très très loin.
De l'histoire.
Bien plus chères que la PlayStation 3 aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Bon, enfin, c'est d'un autre côté des consoles qui n'ont jamais connu le succès critique que connaissent.
Pas pour les mêmes raisons.
C'était pas destiné au grand public, surtout.
C'était vraiment du hardcore.
Ouais, mais moi je me rappelle, la PlayStation 1, je l'ai acheté comme un connard en import et j'avais lâché 6000 balles avec 3 jeux. Et j'avais eu mal.
Mais ça n'intéresse personne.
Mais j'étais content. Non, ça veut dire que les vrais hardcore qui les achetaient en import pour les avoir avant, putain, tu les payais, mais trop cher, quoi.
Exactement. Oui, non, mais c'est vrai, mais moi aussi, la différence entre maintenant et avant, c'est que moi à l'époque j'achetais toutes les consoles en version japonaise, puis je les rachetais en version européenne.
Les gens les achetaient deux fois.
Les gens les achetaient deux fois comme des cons, et en plus, la première fois on passait à la caisse, mais grave. Quoi.
Mais grave, on allait se faire arnaquer dans le 11e ou sur le.
C'est plus
net.
Trop le cas aujourd'hui, les jeux. Maintenant c'est plus international, les jeux ils sortent. Il n'y a plus trop d'intérêt.
Ça, on va revenir là-dessus, ouais, effectivement, sur le mode de consommation un petit peu des joueurs et même de certains hardcore gamers qui effectivement a évolué et qui fait qu'au final, on achète plutôt un jeu une fois, alors qu'avant on l'achetait souvent deux fois si on était impatient et qu'on voulait avoir la version japonaise ou américaine. On part sur quelque chose de très très concret là, cette fois-ci, c'est les prix avec l'inflation, Raon.
Ouais, ouais.
Donc ça veut dire, on pourrait les comparer directement, ça veut dire que si la console sortait aujourd'hui, elle coûterait ce prix-là.
Ouais.
Et du coup, ça va nous permettre de comparer directement. Alors bien sûr, on zappe une fois de plus
si on
la Neo Geo et la 3DO.
Ouais,
hein, qui
donc
sont
la plus chère, c'est la Neo.
C'est quasiment $1000.
Voilà, qui touche presque les barres des $1000. Elle est suivie de très près par la 3DO.
$967.
Voilà. Ensuite, en troisième position, on a l'Intellivision à $825.
Alors l'Intellivision,
elle était si chère que
c'est
ça.
C'est en 1979.
Avec l'inflation, hein. Ouais. Si on la remet au bout du jour, oui.
Si elle sortait aujourd'hui.
1979.
T'as la Coleco sur ton graphique.
Ouais.
La Coleco Vision, c'est $362.
Ouais, parce qu'elle était chère à l'époque.
Bah bon, hein. Et puis, vraiment, à l'époque aussi, avoir une télé, c'était déjà du luxe.
Surtout en couleur. Hein,
ouais. Donc,
on part sur des consoles.
Il faut remettre les choses dans leur contexte historique de l'époque.
Quand même.
et politique.
J'en viens,
s'il
et c'était quand même pas si incroyable que ça. Hein.
Bon, s'il vous plaît, je vous lis avec un petit sourire. Mes plus grandes fermetés, j'aimerais qu'on parle des consoles un peu plus récentes.
Voilà, alors si on reste dans les consoles récentes, donc tu veux dire.
Du coup, allez, partons à la période, on va dire Super Nintendo, PlayStation, Saturn, etc.
Bon, la plus chère de cette époque-là, ça reste la 3DO qui était donc sortie en 93. La Super NES était pas trop chère, $293 toujours avec l'inflation, c'est-à-dire un prix similaire à celle de la Nintendo 64 ou de la Dreamcast qui sont dans ces eaux-là, ou du GameCube par exemple. La PlayStation 2 un poil plus chère, pareil que la PlayStation ou que la Jaguar.
Alors, la PlayStation était même plus chère que la PayStation 2.
Un petit peu, ouais. Alors la PlayStation 1
flirtait
c'était
avec les $400.
Voilà, 393.
Alors que la PlayStation 2 est plutôt à $350.
348, voilà. La Jaguar par exemple était à $345. La Saturn était une console très chère, c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'elle a pas très très bien fonctionné.
Elle a vite baissé de prix en fait. C'est ça, le
ouais, mais à sa sortie, compte tenu de l'inflation toujours, elle vaudrait aujourd'hui $524.
C'est pour ça qu'elle n'est pas restée très longtemps à ce prix-là.
Ce qui est donc plus cher qu'une PlayStation 3
ou qu'une Xbox 360. Hein,
pareil pour la Xbox.
Les deux dans cette gamme.
La Xbox était sortie beaucoup trop chère. Ils l'ont baissé de prix très vite.
$338.
Et ils ont offert des jeux, voilà.
avec l'inflation toujours. Donc,
tout comme la PS2, c'est pour ça qu'en fait, parler des chiffres au moment de la sortie de la machine, c'est un peu biaisé le discours, parce que de toute façon, les prix se sont toujours réadaptés. Plus ou moins rapidement, voire même très rapidement pour les consoles les plus chères du marché.
Je suis pas sûr que ce soit biaisé le discours, parce qu'en tout cas c'est intéressant de voir les PlayStation 3 et Xbox 360, c'est pas sorti il y a 5 ans. Hein. Et au moment de la sortie, il y a, pour la PlayStation 3 en France en tout cas, il y a moins de 2 ans maintenant, il y a un an et demi, on a tous dit « elle est horriblement chère, on n'a jamais vu une console aussi chère, attention, qu'est-ce que c'est que ce truc ?»
Alors,
et justement,
à
dollar constant, avec l'inflation, on se rend compte qu'en fait c'est pas si vrai que ça. Hein.
Enfin, elle vaut quand même $600 dans sa version, c'était 60 gigas si je dis pas du tout, la plus grosse de sortie, ce qui reste quand même le haut du pavé par rapport à toutes les autres, mais pas la plus chère et pas tellement plus chère que les autres.
Et c'est là où on se rappelle d'ailleurs des propos de Sony France qui disait « à euro constant, machin, finalement n'est pas si cher ». Soyons francs, on se foutait un petit peu de leur gueule. À la fois, ça nous fait une belle jambe de parler en euros avec inflation ou pas, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on paye ? C'est ce qu'on paye l'année où on l'achète. Hein.
Bien sûr.
Mais il faudrait économiquement
comparer
parlant,
il faudrait comparer avec le pouvoir d'achat aussi. Hein, parce
exactement.
Que
et ça dépend combien tu gagnes cette année-là.
Il y a ça, et il y a autre chose aussi, c'est qu'il faut voir que les consoles actuelles, que ce soit 360 ou PS3, elles ne font pas que consoles de jeux. Alors, ce n'est pas forcément un argument hyper important dans tout ça, mais ça rentre en jeu quand même.
Sur la PS3, c'est... Non, sur la PS3, je connais énormément de gens qui n'ont pas pris de pack de jeux, en fait, le pack qui a le plus marché dans les gens que je connais ou que je vois sur
c'est
Internet.
C'est le pack cinéma.
C'est le pack cinéma, voilà. Ouais.
Ah bon, on rappelle la PS3.
Mon père en a acheté un il y a 3 semaines. Il n'a rien à foutre des jeux vidéo. Il a acheté ça pour avoir un lecteur Blu-ray.
Plein de gens. Voilà. Plein de gens ont fait ça.
Et il a engendré un julot. Mon Dieu. La déception.
Mais de la même manière que le succès de la Wii tient en grande partie, je pense, grâce, j'allais dire cause, mais pourquoi à cause, grâce au prix de la console qui est quand même super bas pour une console du 21e siècle.
Et que les jeux de la Wii sont très peu chers par rapport à la concurrence.
Alors justement, là on a parlé un petit peu, on a fait un tour de table rapide pour poser un peu des chiffres clés pour qu'on comprenne bien un petit peu la situation. Parlons, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, une console on l'achète une fois a priori, hein. Des jeux par contre on en achète régulièrement.
360 tu dis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en acheter au moins deux.
Enfin bon, il y a un SAV qui est censé être performant aussi de la part de Microsoft.
Mais tu peux être hors SAV.
Si il est performant, je l'ai déjà essayé.
comme plus de 33% des acheteurs d'une Xbox 360.
Pendant 3 semaines t'as pas de console, mais bon elle revient quand même.
Des fois, c'en est une qui était cramée, qu'ils ont refait revivre et qui repleure.
Ouais,
c'est,
bah c'est ça, non, c'est la mienne. C'est la mienne, en fait. Ils t'enfilent pas une nouvelle. Hein,
Justement, en ce moment, il y a des. On dévie là, mais ils sont en train d'échanger les Xbox qui reviennent chez eux là pour le fameux Ring of Death.
Avec l'été, en plus, elles vont toutes tomber comme des feuilles mortes.
Ils en mettent avec une nouvelle carte mère, ça n'avait rien à voir avec le sujet, mais il y a une nouvelle carte mère qui vient de sortir et pour l'avoir, tu peux pas l'acheter dans le commerce, c'est la toute dernière. C'est uniquement les gens qui viennent de la.
Donc,
viennent
vous avez compris, si vous voulez la toute dernière, il faut
dans les
podcasts
Ouais, j'ai lu internet hier. Voilà.
Alors, on recentre un petit peu le débat. Donc, on parlait des jeux. On disait que les jeux, on en achetait assez régulièrement. Justement, c'est assez intéressant de souligner une étude qui a été dévoilée il y a quelques temps, début 2008. Étude de l'ISFE Consumer Research.
Menée par. Pas Médiamétrie. Nielsen.
Voilà. Et qui, justement, souligne à quel point le facteur prix est un facteur prépondérant dans le phénomène de consommation ou pas, pour le jeu vidéo en l'occurrence, puisque justement, il en revient que les gens pensent que le prix a un vrai impact et que si les prix baissaient, ils achèteraient beaucoup plus de jeux. Quelque chose qui a un impact d'autant plus fort chez les hommes que chez les femmes. Les femmes, finalement, accordant une importance un peu moins importante aux fluctuations de prix. Elles, à partir du moment où le jeu les intéresse, qui coûte 5 euros, 10 euros de plus, finalement, c'est pas terrible.
Tu parles de cette race qui achète des pompes à 500 euros, donc tu peux pas lutter.
Exactement. et d'ailleurs, pour juste un autre chiffre, effectivement.
On n'en a même pas donné celui-là, en fait. C'est que 13% des hommes se mettraient plus sérieusement aux jeux vidéo si les prix étaient inférieurs, et 8% des femmes.
Voilà, donc ça aurait finalement un plus gros impact sur les hommes, ce qui est assez paradoxal. Mais enfin, ça note aussi une autre nouvelle tendance. Hein. Je rappelle quand même un chiffre qu'on avait déjà donné sur Gameblog, je crois, mais que dans
ça,
la tranche
ailleurs, hein.
8 à 12 ans, oui, c'est pour les DS. 62% des filles possèdent une DS, chiffre qui est bien supérieur aux 8-12 ans chez les garçons. Preuve qu'il y a quand même une espèce de basculement. Je rappelle, il y a 10 ans, c'était moins de 10% des filles.
Ouais, non, je crois qu'elles ont découvert le truc.
Donc oui, il y a quelque chose qui est
d'ailleurs,
en train de se passer.
D'ailleurs, tout en Europe, les possesseurs de consoles portables sont ceux qui achètent le plus de jeux en Angleterre, notamment.
Alors,
donc, Angel.
Alors, pareil, je te repère. Donc, 60 et quelques pourcents de filles donc, ont une DS, mais combien s'en servent vraiment? Ça, c'est bah, un chiffre intéressant.
Bah, énormément, justement. Moi, j'ai alors. Ah, bah là, je peux te
avec
dire.
Avec les jeux d'équitation.
Ah, oui, mais à fond.
Non, mais si tu, qu'on parle de ton entourage, enfin, tu vois, non, si, c'est chaque, mon... non, mais chacun, non, non. Si on non, parle non, chacun de notre entourage, non, c'est très bien. Mais
c'est pas mon entourage, c'est des chiffres. Pour tout dire, je suis en train de faire une émission en ce moment justement sur la consommation des filles, donc les chiffres, je peux te dire que je les vois au quotidien, et c'est effroyable. Et
effroyable, c'est effroyable, genre au
secours. Les filles qui ont une DS, ils jouent, les mères, même pètent un câble à quel point leurs filles jouent plus à la DS que leurs garçons. Elles jouent à Picross, Pictochat, truc qui nous paraît complètement débile où on y a joué 4 minutes, elles bloquent dessus. Les trucs, les Animal Crossing et tout, ça fait un carton chez les filles. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Et les garçons se lassent beaucoup plus vite, alors que les filles, bah, c'est comme la dinette.
Il nous faut des nouveaux trucs.
Elles peuvent continuer très très longtemps. Elles se lassent absolument pas. Donc c'est une véritable réalité. On continue avec les chiffres. Justement, tu parlais, Raon, il y a quelques instants, des Anglais. Les Anglais qui sont des très très gros consommateurs.
Ce sont les premiers consommateurs d'Europe.
En Europe, voilà.
J'ai bien compris du coup. Oui.
Ce sont les Anglais qui sont les premiers consommateurs de jeux en Europe en termes de volume. Je sais pas après en termes de taille du marché exact ce que ça représente, en tous les cas c'est eux qui achètent le plus de jeux. Ce qu'il faut savoir c'est que en moyenne la grande majorité des Européens, c'est-à-dire 74%, achètent environ un jeu tous les deux mois ou moins,
ce qui représente un achat de entre 1 et 6 jeux par an pour toujours
ouais, pour la très large fourchette effectivement, donc ça fait c'est la moyenne quoi. En comparaison il y en a 5% qui en achètent plus de 12.
5% plus de 12, alors que une fois de plus les Anglais se distinguent puisque 18% des joueurs anglais achètent plus de 10 jeux par an.
Ouais, 10 ou plus.
Mais là, t'as les chiffres PC aussi ?
Ah, c'est tout, ça, c'est tout, tout confondu.
Parce que les console. Allemands, ils sont au taquet normalement, mais plus PC, pas du tout console. Vu la taille du marché, bah, je veux dire. C'est,
Ça fait peut-être baisser justement leur moyenne,
ouais,
du coup.
Ouais, ouais. Puis en plus, ils achètent vachement en ligne. Donc, ça a été un des premiers, je crois.
Donc effectivement, les Anglais sont.
Et il y a très peu de variations d'après ces données-là. Toujours, c'est toujours cette même étude hein, dont on parle qui est très récente. Elle date de 2008. Que les habitudes de consommation ne varient pas tant que ça en fonction du genre, du sexe ou de l'âge. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres globaux.
Voilà. Alors une fois de plus, maintenant qu'on a bien posé les chiffres, moi j'aimerais faire un tour de table à repasser et plonger un petit peu dans vos souvenirs, sans que vous réfléchissiez spontanément. Quand vous étiez plus jeune, il y a les 10-15 ans, vous pensiez payer combien pour un jeu vidéo, Julo ? Qui va recevoir un micro, un geste divin, attention, c'est parti. En moyenne, tu payais combien ? À partir de quand tu trouvais que les jeux étaient chers ?
Oh putain. Moi, je suis un mauvais exemple.
La Super Nintendo.
Je suis un super mauvais exemple parce que moi, j'avais une Super Famicom et que j'ai fait des folies.
Oui, mais bah, enfin des chiffres.
Non, non, mais voilà, mais je sais pas.
À part ton Street Fighter à 900 balles.
Bah, j'ai fait payer Star
Fox. C'est quoi, c'est 400 balles, c'est 300 en fait,
ouais, je sais pas, je m'en rappelle, c'était genre 450 balles, un truc comme ça. Un jeu,
450
ouais,
400 francs, ouais. Ok. Angel, à peu près la même chose, tu trouves plus, moins?
Ouais, c'était pareil, c'était 450 francs, mais après, ça évolue aussi avec le temps. Quoi. Quand j'ai commencé à jouer, je me souviens, j'avais des jeux Vectrex qui étaient vachement plus chers que ça. Quoi.
C'était donc, combien à peu près?
Non.
Ah, bah, dans mes souvenirs, c'était un truc genre 700 balles.
Ah non, carrément pas.
Non.
Non,
c'était pas moi qui achetais. Justement, enfin, tu vois, c'est pour ça que je disais ça. À l'époque, le Vectrex, c'était pas moi qui achetais les jeux, quoi. C'était mes parents, quoi.
Ils t'ont pipoté, ils t'ont dit c'est beaucoup trop cher, non, ça coûte 700 balles.
C'est pas ça, mais à l'époque.
Je l'achetais avec ma thune.
Caf.
Je l'achetais avec ma thune et c'était sur la. Un jeu normal, c'était entre 350 et 450 à l'époque. Ce qui,
cela dit, ouais.
On parle de 1983, là, donc c'est quand même. Ça revient super cher au final. Et le truc qui était topissime, c'est, rappelle-toi, c'est les années 80, c'est toutes les consoles qui se cassent la gueule. En 84, la console, elle crève. Et donc là, j'ai acheté quasiment tous les jeux de la console à 30 balles l'unité. Et là, j'ai trouvé ça vachement bien, en fait, quand les consoles mouraient.
Ouais, mais, donc voilà, c'était quoi, 350 balles pour les
Tu sais quel était le prix de ta Vectrex avec l'inflation aujourd'hui?
Super cher.
414 $.
Ouais. Parce que moi, je l'avais acheté et ça.
Mais bon, t'avais l'écran avec, quoi.
C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, parce que j'avais pas le droit de le
faire.
J'avais pas le droit de l'acheter.
Oh merde.
Attends, bon. Avec, c'était super classe.
Donc, ce qui ressort globalement là de ce petit tour de table à repasser, c'est que globalement, on s'arrête vers les prix avoisinant les 450 francs de l'époque.
Sauf que non, parce que là, on parle des consoles et moi, je tiens à dire que attention, il y avait non
sur PC c'était 300 350.
C'était surtout que dans les années 80, c'était surtout Amiga, Atari ST. Ouais, enfin, à 80, c'était Amiga, Atari ST, les trucs.
Personnel chez les jeux, c'était pas facile.
Justement, c'est ce que j'allais dire, on les piratait par en masse, mais en attendant, quand on achetait un, tu les achetais relativement beaucoup moins cher que les jeux consoles, puisqu'on les payait et là les mecs ils margeaient parce que c'était pas le prix d'une disquette vierge et d'une boîte en carton qui les ruinait, mais c'était 250 balles, 350 balles.
D'accord.
Les 350, c'était vraiment les jeux chers sur ordinateur.
Bon, là on va dire que ça allait entre 250, 450 à l'époque Super Nintendo avec les cartouches, il y en avait, parce que 450 c'était à peu près le prix des jeux
plus chers,
Nintendo
c'était
officiel.
Nintendo, hein, c'était
mais après tu avais 500, 550 et
ça, c'était les trucs de mémoire parce que 650, les cartouches
francs,
augmentaient.
C'est quand t'avais les cartouches spéciales. Ça.
Voilà.
Et puis est arrivé, avant justement de voir un petit peu la réalité d'aujourd'hui, est arrivé le CD, le DVD.
Vous allez vous payer vos jeux moins cher.
Voilà.
Vous allez tout payer moins cher. Même les disques audio, c'était fantastique, le compact disque.
Exactement. Et à l'époque, on pensait que le passage, justement, la mort de la cartouche, qui était un gros bousin avec du plastique, des fibres à l'intérieur, des transistors,
des puces.
Bon, ça allait vraiment faire baisser les prix. Et du coup, à cette période-là, j'ai l'impression que ça a jailli à ce moment-là, l'impression d'arnaque. C'est vraiment fait arnaquer qu'on ne reviendrait jamais en arrière.
Non, les prix ont baissé. Hein. Avec la PlayStation, les jeux sont tombés à 350 balles.
C'est vrai, mais ils ont margé comme des porcs quand même.
Ils ont margé comme des porcs, ouais. Surtout qu'ils ne devaient plus payer les cartouches. Enfin, ils ne devaient plus payer les cartouches à Nintendo.
Et puis c'était fait dans
mais ils payaient leurs CD
quoi.
À Sony.
Ils payaient les CD à Sony, hein, les mecs.
Non, mais souvenez-vous, parce que Nintendo vend les cartouches quand même que tu es obligé d'acheter.
Bien sûr.
Donc les CD, le pressage, tu le payes pas à Sony directement. Enfin, tu payes des royalties quand même. Mais tu payes pas le pressage directement.
Mais bien sûr que si.
Bah bien sûr que si.
Mais bien sûr que c'est chez Sony. Parce que c'était avec la vraie protection, rappelle-toi, les premiers CD, ils étaient noirs en dessous. Et c'était.
C'était pas 100 balles la cartouche.
Non, mais bien sûr, c'était moins cher. Mais tu étais quand même obligé de passer par Sony. T'as des jeux qui sont sortis en retard parce que Sony n'avait pas le temps, les usines étaient au taquet.
Ils faisaient déjà passer en avant. D'abord, les first party.
Bon, enfin, tout ça pour dire quand même, et ça, je pense qu'il y a quand même peu de personnes qui vont dire le contraire, que dans l'inconscient collectif, on a tous l'impression que les prix des jeux aujourd'hui sont que les jeux, on paye nos jeux beaucoup plus cher qu'à l'époque.
Je pense que le truc,
globalement,
c'est les jeux next-gen.
Vu qu'on entend ça à peu près tous les jours.
Non, mais il y a surtout deux raisons.
C'est 60-70 euros pour les jeux next-gen. Ça a été, on a franchi une sorte de palier actuel par rapport au prix de l'euro.
Alors, si maintenant on fait la transition, si on passe du 70 euros à combien ça nous fait en francs, on se rend compte que justement, 70 euros, ça fait à peu près 460 francs. Donc finalement, les chiffres que je vous demandais tout à l'heure, et on arrivait à peu près aux alentours de 450 francs, en sachant qu'il y avait des jeux qui étaient plus chers d'ailleurs, et certains moins chers, bien sûr, mais il y a des jeux qui sont à moins de 70 euros. On pense par exemple aux jeux Nintendo sur Wii. Les jeux Nintendo sur Wii, ça tourne à aller vers les 50 euros à peu près, 45, 50, 55 euros. C'est dans les 300 francs.
En first party, hein, sinon ça monte à 59.
Voilà. Mais 59 reste encore bien moins élevé, on va dire, ça va être dans les 350 francs.
Ouais.
Donc finalement, est-ce que c'est pas un grand mythe? En tout cas, les prix n'ont pas explosé tant qu'on le croit, en tout cas.
Non, ça reste relativement raisonnable au final.
Sur le papier, ouais. Mais il y a sûrement deux raisons au fait qu'on a l'impression que ça soit beaucoup plus cher. Un, parce que auparavant,
c'est la misère.
C'était une vieille habitude aussi française de dire c'était mieux avant et tout ça. Mais il y a aussi sûrement le fait qu'on payait pas forcément nos jeux tout le temps avec l'argent qu'on gagnait, parce qu'on était jeunes et que c'était les parents qui payaient.
Oui, enfin les jeunes ils trouvent que c'est cher aussi, hein, t'inquiète. Hein.
Ouais, mais c'est ça, ça agit sur la mémoire, quoi. Et le deuxième truc, c'est le pouvoir d'achat en parallèle. C'est que peut-être que quand même, j'ai cru entendre dire qu'il y avait des problèmes de pouvoir d'achat.
C'est la misère.
Peut-être que ça joue quand même, quoi. Peut-être qu'en fait, on gagne moins d'argent, donc ça nous paraît plus cher.
On parle du pouvoir d'achat depuis un an. Ça fait quand même bien 5, 6, 7 ans qu'on dit putain, les jeux sont chers quand même. Ça a augmenté, ça ne s'arrête pas. En fait, c'est pas si vrai que ça, dans les faits.
Non.
C'est un peu une idée reçue, un peu facile à mettre. L'euro a bon dos quand même, hein, sur beaucoup de choses à ce niveau-là.
Mais si tu regardes tous les prix d'ailleurs de tous les produits qu'on peut consommer, que ça soit de la bouffe ou machin, tout ce qui est jeux et haute technologie, c'est ce qui a le moins augmenté.
C'est ce qui a le moins augmenté,
parce que
mais ça reste.
On pourrait parler du prix de
dans
la part de flan.
Très cher.
Oui,
et là c'est n'importe quoi.
Ou du steak tartare.
Ou de la baguette.
Ou de la baguette. Alors là c'est n'importe quoi.
Le pack de lait.
Pourquoi je citais la part de flan? Parce que c'est une de mes trucs préférés.
Le plus hallucinant, c'est les
n'importe
légumes.
N'importe quoi maintenant, quoi.
Les légumes, c'est le plus hallucinant.
Mon père de Julot.
Bon père de famille.
Julot va vous dire combien coûtent les.
Je sais pas, j'ai été acheter 3 tomates et 3 patates l'autre jour et ça m'a coûté aussi cher
euros.
Que le poulet. Ah, non,
ça coûte aussi cher que Metal Gear Solid 4.
Non, mais c'est vrai, c'est de la folie. Les légumes. Enfin bon, c'est une digression.
C'est une digression. Alors justement, est-ce que le fait qu'on dise les jeux vidéo, les prix augmentent, etc., c'est pas parce que, quand même, de manière absolue, ça reste quand même l'un des biens
allez, culturelles, en tout cas de loisirs, parmi les plus chers à l'achat, on passe en caisse, bah, on en a rarement quand même pour en dessous de 50 euros, alors qu'acheter un livre de poche,
CD,
ça coûte 10 euros, acheter un CD aujourd'hui, ça coûte
les gens
de moins en moins
CD,
cher,
tu vas dire, ouais.
9 euros ou quelque chose comme ça. Donc en valeur absolue, même je pense à une place de cinéma, même si ça aussi ça a explosé en termes de prix.
C'est super cher,
mais enfin ça coûte 10 euros. Un jeu vidéo, ça en coûte 70. Raon.
Bah, après c'est toujours la question de qu'est-ce que t'as pour le prix que tu payes, quoi. Donc je sais pas, moi je personnellement je trouve que je retire plus en payant 70 euros un jeu que 10 euros pour aller au cinéma. Mais bon, après c'est un choix
alors,
perso aussi.
Caf fait la moue et j'aimerais qu'elle se concrétise avec des mots.
Non, je suis assez d'accord, mais tu passes en caisse. Voilà, la semaine dernière, tu vas acheter ton MGS4 et moi j'ai pris le guide avec parce que je voulais en profiter après quand je jouerai la deuxième fois, peinard, pour pas être obligé d'aller sur le net ou quoi aux caisses. Bon, bah mine de rien, j'ai lâché 86 euros.
Ouais.
C'est un investissement.
Bah, clairement, c'est-à-dire qu'un jeu à 70 euros, c'est quand même 7 places de cinéma. À peu près, c'est un petit peu moins dans la réalité, mais c'est à peu près 7 places de cinéma. Donc un film dure à peu près 2 heures, voire certains un peu plus. Donc c'est à peu près 14 heures de potentiellement de loisirs et de divertissement et de bonheur pour les meilleurs films.
Avec même MGS4,
alors,
tu fais plus.
MGS4, oui, mais il y a tellement de jeux aujourd'hui qui durent beaucoup moins de 14 heures.
Mais au-delà du poids, entre guillemets, c'est aussi hein, parce que c'est un. Je sais que je vais m'éclater avec ce truc-là, je sais que j'ai envie d'y jouer, et c'est aussi une motivation.
Mais ça, c'est de l'affect. Parce que nous sommes fans de jeux vidéo.
Bien sûr, mais c'est un choix.
Mais c'est vrai que dans un linéaire, ça reste quand même parmi les produits.
Ah bah, carrément.
Mais largement les plus chers.
Carrément.
Largement les plus chers.
C'est là où Nintendo a super bien joué, parce que finalement, tu t'aperçois qu'un Mario Kart avec le volant, la grosse boîte, machin, c'est 49 euros ou 50 euros.
Et qui cartonne.
Mais non, mais il est en rupture à la Fnac. Parce que sur commande à la Fnac depuis la sortie initiale, c'est vraiment qu'ils sont en dessous du seuil psychologique qui est hyper important.
Bah c'est ça. Alors justement, là où je voulais en venir, c'est est-ce que finalement ces prix, on a vu que finalement ça n'avait pas tant augmenté que ça, mais est-ce que quand même ce facteur prix qui reste, qui stagne, on va dire vers les 70-60 euros, n'est pas quand même un vrai frein à la consommation? On l'a vu avec l'étude Nielsen 2008 tout à l'heure où on disait que 13% des hommes disaient que c'était un facteur clé et que si les prix baissaient, ils consommeraient plus de jeux vidéo. Est-ce que le fait que justement ça reste un loisir très cher, très onéreux, soyons très clairs, n'a pas un impact sur le jeu vidéo? Et est-ce que finalement ça le mérite tant que ça de payer aussi cher? Bien sûr, les coûts de développement ont explosé, mais enfin, ça reste quand même pour l'instant bien moins important qu'un les coûts de développement d'un gros blockbuster. Et
oui,
on paye pas 70 euros pour aller voir un Spider-Man 3.
Oui, mais en même temps, tu vois, si t'es père de famille et que t'as 3 mômes, toi-même, ta femme et tes gosses, ça fait 10 euros x 5, ça fait déjà 50 euros.
C'est
pour
vrai,
le même blockbuster.
Alors que t'as une console, une télé, un jeu à la maison, tout le monde y joue plus ou moins. Bon, voilà.
Chose sur laquelle je suis absolument pas d'accord, parce que Metal Gear, par exemple, c'est un jeu, le père va jouer. S'il a un fils qui a plus de 18 ans et tout, peut-être, ça fera deux, mais la mère n'y jouera jamais. Et les enfants, s'ils sont bas âge,
c'est la faute de la mère, merde.
Ah, mais ils y joueront jamais.
Oui, mais c'est pour ça aussi que la Wii cartonne encore
oui,
une fois.
Alors, après, si on compare ça avec le Cinoche, une fois de plus, en plus, moi, c'est un truc que j'aime pas faire en comparer avec le cinéma, parce que c'est deux médias qui ont quand même rien à voir.
Mais là, on compare pas les médias, on compare l'économie derrière ces médias.
Mais les films, faut pas oublier qu'ils ont une deuxième vie avec le DVD, une chose que n'a pas du tout le jeu vidéo. Le jeu vidéo vit, enfin un cycle finalement qui est beaucoup plus court.
Bah, justement, chose qui est en train de vraiment changer. Là, c'est là où je suis pas vraiment d'accord.
Faudrait plutôt comparer avec le DVD qu'avec le Cinoche finalement.
Parce que bah, si on le compare, c'est encore une fois facile. Hein, parce que un DVD, c'est quoi? C'est 15, 20, 25 euros maximum.
Ouais, c'est vrai.
Et les jeux vidéo restent encore 3 fois plus cher.
Même
du coup,
un Blu-ray,
oui, mais là, je reviens à la même chose. Mais là, j'inverse le problème. Ils s'en foutent. Le DVD peut être vendu 15 euros, puisque de toute façon il a déjà plus ou moins été rentabilisé en salle.
Très bien. Et alors, donc, qu'est-ce que tu penses de la virtuelle console qui finalement est exactement la même chose, faire revivre une deuxième vie à des vieux jeux sur Xbox avec les Xbox Originals et sur PlayStation avec les sorties des anciens jeux PlayStation?
Ça s'appelle de la maximisation de profit.
Bah, c'est
non, mais c'est tout. Hein.
Bien sûr, mais c'est la même chose que pour un DVD aujourd'hui, c'est ressortir des
vieux. Non, parce qu'un DVD, t'as un objet. Il y a encore un autre problème, c'est qu'il faut quand même savoir que le prix d'un jeu aujourd'hui, ça reste encore un jeu normal, donc en boîte, c'est 45% qui va à la distribution. C'est une cote-part qui existe dans tous les produits qu'on achète en rayonnage. Grosso modo, la distribution, ça change pas, c'est toujours environ 45%, que ça soit un CD, un DVD, un jeu vidéo ou un bouquin.
Voleur.
Et la virtuelle console et tout, c'est une distribution numérique. Alors oui, il y a encore des coûts parce qu'il faut héberger des serveurs, il faut payer de la bande passante, etc. Mais les coûts de distribution en numérique, c'est quand même largement inférieur.
Je suis d'accord, mais les prix sont largement inférieurs, puisqu'un DVD coûte à peu près 25-30 euros et un jeu sur la virtuelle console console coûte 10 euros. Un jeu sur le PlayStation Network, c'est 9,90 et un Xbox Original, c'est 15 euros.
Là, c'est des créas. Donc, si tu prends un vrai système de distribution numérique, si tu prends Steam, par exemple, sur PC, qui est un vrai système de distribution numérique, voilà, tu prends Grid qui vient de sortir. Il va être moins cher sur Steam. En plus, il est en dollars, alors c'est que du bonheur.
Ouais, bon, là, effectivement, ça tombe bien en ce moment. Parce que
ça, de base, il est moins cher. Mais il ne faut pas oublier que Steam prend... il négocie pour chaque jeu, en fait. Mais c'est pareil, c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'on revient à la distribution. Ils ont...
Et là, ce sont des jeux qui ne sont pas rentabilisés encore. C'est ce qui est pas
ça
le cas
vient de sortir. C'est des magasins à eux et ils prennent facilement 30 à 40%. Donc finalement, ils reviennent. Parce que là, on parle de la Virtual Console, machin, c'est un truc à Nintendo, voilà, machin, ils ont la main mise sur le truc. D'ailleurs, s'ils pouvaient augmenter les serveurs, ça serait pas mal parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se connecter.
Et la mémoire dans leur console.
Oui, ça aussi. Mais ça, c'est un problème pour eux. Enfin,
Monsieur
ils sont
Fischer Waddell, s'il vous plaît, quand même.
L'Apple Store, c'est, enfin, l'Apple Store, c'est un euro le morceau. Hein. Quand tu multiplies, finalement, c'est le prix d'un album à la Fnac.
C'est pour ça que je dis l'argument du tout numérique. Aujourd'hui, dans l'économie mondiale du divertissement, le fait d'avoir une boîte ou pas n'a pas un impact si énorme que ça. Hein.
Bah non, au contraire, moi je pense qu'on se fait baiser.
On
se fait baiser clairement. Bien c'est sûr. Exactement pareil que le CD. Ça aurait dû baisser à mort et finalement ça a baissé. Mais déjà, ça fait combien d'années ce CD s'est sorti quand
CD, c'est
80. Le CD le CD dans les années 80.
Bref, donc, bref, c'était censé à l'époque, quand on nous l'a présenté, oui, vous verrez, d'ici 5 ans, quand ça sera rentabilisé, ça aura baissé de 10 fois le prix, que dalle.
Ça, c'est des promesses, toujours.
Mais c'est pareil avec la distribution numérique, on est censé payer moins cher et finalement, voilà. Quoi.
Non, parce qu'en fait, à chaque fois, après, ils font des graphiques un peu comme celui que tu as et après, ils voient la colonne marge et on va pas y toucher à ça.
Ouais, enfin, là, quand même, globalement, on a vraiment dévié de la question que je posais tout à l'heure parce que je parlais justement sur le fait que le jeu vidéo était le média loisir le plus cher, on va dire, si, par rapport à la littérature, par rapport au cinéma. Voilà, et justement, comme argument, il y avait. Et je demandais, est-ce que finalement, ça le mérite tant que ça de payer ce prix-là, puisqu'on voit des films qui sont autrement plus chers en coût de développement qu'un jeu vidéo avec autrement plus de personnes qui travaillent sur un film, et qui sont moins chers. Ouais, à ça, vous me répondiez, oui, mais il y a une deuxième vie parce qu'il y a le DVD. Et moi, je vous répète, il y a une deuxième vie aussi des jeux, puisqu'aujourd'hui, il y a la Virtual Console,
Et en plus, je suis en chair, et tu ne touches pas non plus le même nombre de personnes.
Parce que je suis désolé,
il y a vachement de gamers, et il y en a encore plus qu'avant, et il y a aussi des filles, et il y a aussi des vieux, mais il y a quand même vachement plus de gens qui vont au cinéma.
Mais bien évidemment. Mais est-ce que justement, si les jeux étaient à 20 ou 10 euros, est-ce que justement il n'y aurait pas vachement plus de joueurs et qu'on se rapprocherait pas plus des chiffres de fréquentation des salles de
cinéma? Alors je suis pas sûr que les éditeurs puissent se le permettre. Vraiment.
Mais pourquoi alors
Parce que c'est prendre un risque plus important sur une plus longue période.
Parce que les coûts de production sont super chers. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois qu'on cherche des moyens de financement parallèles, tu vois, qui finalement ne touchent plus trop le portefeuille du client, ou alors de manière déguisée. Tu vois, justement, on en parlait tout à l'heure, les pubs Apple dans Metal Gear 4, c'est clairement ça. La vente de contenu par microtransaction. Bon, ok, là, on tape directement dans ta poche, mais c'est une manière déguisée, quand même, de rentabiliser un peu plus le jeu.
Le placement produit, je ne suis pas certain. Pour prendre le cas précis de Metal Gear Solid, j'ai écouté le podcast qui est dans le premier podcast qui est déjà dispo dans le jeu, en fait. J'ai pas l'impression qu'il soit payant.
Ouais, bon alors, je te prends un autre exemple, PES.
En tout cas, ils disent que le coût de l'iPod, c'est pas payant. C'est
PES, toutes les pubs dans PES, c'est payant, c'est super dealé.
Je prends l'exemple du placement produit comme on voit au cinéma ou Sony.
Moi, j'ai
juste
donné un exemple.
Ils ont clairement raqué, tu vois.
Il est peut-être pas bon, quoi, mais il y a plein d'autres jeux.
Ça serait intéressant d'avoir le fameux
histoire sur iRobot.
Ouais.
iRobot.
Il y a les études.
Dans les deux, en fait.
Ah oui, exact.
Il y a tout ce qu'ils étudient pour essayer de foutre de la pub aussi dans les jeux. Il y a quand même Electronic Arts et tout ça qui commence à signer avec des régies.
Ah, puis ils vont le faire, ça c'est évident.
Ah bah oui.
Oui, mais est-ce que du coup ça va faire baisser le prix?
Bien sûr que non.
Dans les étals, ça va pas bouger.
Mais là on est en train de parler.
Est-ce qu'on se dit donc définitivement aujourd'hui, en regardant nos boules de cristal, juin 2008, les jeux vidéo ne vont jamais baisser?
Non, on peut pas dire ça.
Ça va toujours rester dans les
gens
au-dessus des 50 euros.
Mais attends, faut être clair. Les gens, s'ils les achètent à 70 euros, on est dans une société qui s'appelle une société capitaliste. Et t'as des mecs qui font des tableurs tous les mois pour savoir combien ils ont gagné d'argent. Tu vois ? Et bah, ils sont évidemment pas en train de dire. Ils commenceront à baisser les prix s'ils sont certains que ça va continuer à en vendre plus.
Et s'ils regardent l'exemple de la Wii, qui est en train de battre vraiment tous les records, d'être complètement incroyable. Alors oui, il y a la jouabilité, il y a une politique du jeu vidéo. Je suis super d'accord. Mais d'un autre côté, en ayant baissé les prix, en tout cas ne jouant pas la course de l'inflation, et ben ils en vendent d'autant plus. Alors, alors oui, on peut l'expliquer de plein de manières différentes.
Ouais, moi je te l'explique déjà, Angel, parce que les coûts de développement sont quand même vachement plus bas sur Wii que nulle part ailleurs, quoi.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais, ça, c'est,
mais
ça, c'est...
par contre, par mais contre que... je vais te poser une question.
Mais est-ce que justement le fait
de l'innocence, tu vois, du système capitaliste, tu crois vraiment que le jour où le prix du blé et donc de la farine va chuter drastiquement, tu crois vraiment que ton boulanger il va te vendre la baguette moins chère?
Non, mais parce que pour moi, ça n'a juste rien à voir. Mais ça n'a rien à voir.
Parce que son loyer,
c'est un bien de vie. On est obligé d'acheter de la baguette, etc. Alors qu'un jeu vidéo est juste un bien de consommation complètement futile et dont on pourrait très bien se passer et qui fonctionne donc. Son succès n'est une corrélation immédiate avec son prix. Tu fais tous les jeux vidéo, tu les passes à 200 euros, t'inquiète, il n'y a plus personne qui joue. Hein. Enfin, si, 3 000 dans le monde, puis c'est tout. Hein. Et puis on oubliera et on passera à autre chose. En revanche, si tu baisses drastiquement le prix des jeux vidéo, est-ce qu'il y aura
forcément une inflation des joueurs, c'est sûr.
Bah ouais. Et donc, est-ce qu'au final, les développeurs ne s'y retrouveraient pas d'une certaine manière aussi? Pas et tous, est-ce que justement, non. En touchant
j'ai
un nouveau
du mal à
public,
me dire, je vais le prendre par
la durée de vie d'un jeu sera plus longue et du coup, on va pouvoir toucher plus de personnes?
Moi, j'ai une réponse à ça, mais je ne veux pas te couper la parole.
je suis pas sûr, enfin, j'ai du mal à me dire que si c'était aussi simple que ça, ils ne l'auraient pas déjà fait, tu vois.
D'un autre côté, ils n'ont jamais tenté.
Ils ont dû étudier avant pour savoir si c'était
tentable
ou pas.
Toi-même, tu sais que les études et les focus tests... ça veut
justement, j'ai la naïveté de me dire s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne pensent pas que ça va fonctionner. Mais en Nintendo, tous les cas, pas dans les proportions.
Nintendo le fait,
ouais,
ça marche.
Il faudrait que tu vendes plus. Eux, ils y arrivent, mais tu as une limitation sur un truc très con, c'est qu'un jeu vidéo, c'est un investissement de temps colossal, les trois quarts. Et qu'il y a un moment, les gens, il y a des journées qui font 24 heures, et même si tu augmentes ton panel de gens qui jouent, il y a un moment où les gens ils vont arrêter de consommer parce qu'ils ont assez de jeux. Moi, cette semaine, j'ai acheté Mario Kart, j'ai acheté MGS4 la semaine dernière, j'ai pas fini, je suis à 6% de GTA 4. Crois-moi que là, des jeux, j'ai acheté Call of Duty 4 avant, puisque j'achète des jeux, ça faut le dire. Et franchement, là, je suis pas prêt d'en racheter.
Mais quelque part, toi, t'es déjà une cible obtenue, enfin, t'es un consommateur.
Et je te dis qu'en tant que consommateur, demain, tu me sors un top blockbuster, mais je l'achèterai pas parce que je n'ai pas le
mais
temps.
Mais peut-être que justement, il faudrait sortir moins de jeux, parce qu'on voit quand même chaque mois. C'est des dizaines et des dizaines de jeux qui sortent dans l'eau déjà, les trois quarts étant quand même
ça, ça a une autre problématique
médiocre
parce que t'en as 70 euros qui sont des merdes
qui sont des merdes. Donc voilà, donc il faut déjà faire le tri chaudier, et c'est là où Gameblog pourrait faire tout son rôle à plaire avec des tests toujours à l'heure mais néanmoins si on avait peut-être un peu moins de jeux, des jeux un peu moins chers et que du coup on touche une bien plus large population, bah peut-être qu'on s'y retrouverait au final.
D'où le développement des jeux à épisodes, des jeux moins chers, etc. Comme certains, mais le problème c'est que pour l'instant ça veut aussi dire des jeux de qualité moindre. Et que les mecs n'ont pas compris que peut-être des jeux moins chers mais aussi bien et là il y aura un vrai marché. Pour l'instant
c'est pour ça,
ça reste
aussi qu'il y a
un
les
peu
démos et tout
bizarre quoi.
J'ai envie de souligner quand même
les démos qui
un autre
top.
Point, c'est quand même la spécificité du jeu vidéo, c'est que chaque industrie a ses particularités et qu'effectivement le cinéma ou la littérature a une barrière que n'a absolument pas n'a pas les barrières que le jeu vidéo ont, c'est-à-dire qu'un livre, on peut lire un ouvrage de 850 siècles avant Jésus-Christ ou quoi que ce soit, bah, c'est toujours la même littérature, c'est toujours un écrit. Oui, s'il est de talent à la base, il le sera toujours deux siècles plus tard.
Ouais, sauf que je lis pas l'araméen, mais bon.
Non, mais très bien. Mais enfin, il peut être traduit, par exemple.
Et puis 850 siècles avant Jésus-Christ, là, ce serait même pas de l'araméen.
Oui, il y a pas beaucoup de choses qui seraient écrites à cette période. Enfin, vous m'avez compris.
Il maîtrisait pas trop l'écriture.
Le cinéma, c'est pareil. Voir un film noir et blanc des années 60. S'il a été exceptionnel, il reste toujours exceptionnel et on peut le voir. Alors qu'un jeu vidéo, c'est vrai que déjà, un, il faut avoir les consoles qui permettent de le lire. Alors justement, avec l'émergence de la Virtual Console, les Xbox Originals, on voit que c'est la première génération de machines qui nous permet vraiment de regoûter à des vieux jeux sans avoir à ressortir ces consoles. Mais pensez mais à un public qui n'avait pas ces consoles. C'est-à-dire que nous, à la limite, on les avait. Mais des gens qui commencent le jeu vidéo aujourd'hui, jamais ils pourront rejouer un vieux Mario s'il n'y avait pas les Virtual Console, etc. Bah... Et du coup, la durée de vie d'un jeu... effectivement elle est datée, ne serait-ce que parce que bah, le jeu vidéo évolue tellement vite par rapport à ses autres médias et puis prennent un tel coup de vieux que...
Donc en gros c'est ce qu'on était en train de dire, qu'a fait moi en fait.
C'est-à-dire
voilà. C'est-à-dire que du côté éphémère de la chose qui rendait le cycle de vie beaucoup plus court que
je
par
suis...
exemple le cinéma.
D'accord, mais là je parlais sur un cycle de vie qui est quand même du genre de 10 ans, 15 ans et pas de 6 mois, parce que le cycle très court dont vous parlez je le connais, hein, c'est 2 mois 3 mois, comme tous les éditeurs en parlent, effectivement, si tu rates ta fenêtre de lancement qui est d'à peu près 1 mois, si tu n'as pas décollé dans cette période-là, t'es mort, c'est fini.
Mais je trouve que c'est de moins en moins vrai aussi.
C'est de moins en moins vrai, et justement, à mon avis, par l'émergence d'un nouveau public qui n'achète pas les jeux dès leur lancement, et que c'est pour ça d'ailleurs que je serais très intéressé par les chiffres de vente finaux de Metal Gear Solid 4, parce qu'effectivement, départ très rapide, très fort, et plein d'espoir, mais pour moi, Metal Gear Solid 4 est une vraie série de fans, dédiée aux fans, et les fans, ils achètent dès le premier jour. Mais ce qui serait intéressant maintenant, oui, c'est de voir
ça,
un mois après, si derrière, ça suit.
Mais moi, je pense aussi que c'est un phénomène culturel. C'est-à-dire qu'on verra, ça se trouve, dans 10 ans, 15 ans, peut-être que certains joueurs qui n'auront pas connu ces consoles-là s'intéresseront aux racines du jeu et peut-être qu'ils s'abuseront avec des vieux jeux ou les retrouveront. Après, on ne sait pas comment ça va évoluer.
T'as un truc, c'est la dépréciation technologique. Bah ouais. C'est-à-dire que tu remates un vieux Hitchcock. Voilà, c'est un Hitchcock, quoi. Il est bien. Si t'es un fan, t'es un fan. Ouais. Maintenant,
mais sans parler même de fan, c'est même intéressant.
Si je reprends le mec, un fan, le gars, il vient de découvrir MGS4, mais il veut comprendre machin. Oh là là, c'est fantastique, je veux jouer aux autres. Je vais recommencer sur ceux sur MSX.
C'est hardcore. Parce que la jouabilité,
faut
elle est archaïque.
Qu'il soit dedans, quoi,
alors qu'un film, ça suit, quoi. Ça a une histoire, ça a une musique.
Mais non, mais voilà, mais c'est pour ça.
Elle sera chancelante, mais bon.
Et le marketing, ouais, mais... le marketing du jeu vidéo est aussi. Se tire un peu une balle dans le pied là-dessus aussi parce qu'ils veulent tellement vendre le prochain produit, the next big thing, qu'ils vont flinguer très très vite les anciens.
Ah ouais, ouais. Puis toujours en mettant des nouvelles features, ce qui enterre les autres parce que tu comprends, avant c'était pourri en fait.
Bah ouais,
parce que globalement, les suites bon, c'est quoi. Ça, hein, c'est pas dire qu'avant c'était pourri, mais ouais, bon, avant c'était un peu. C'était l'ébauche quoi, mais maintenant on arrive avec un truc.
C'est Homo qui lève deux fois plus long.
Ouais, exactement.
C'est ça, c'est la nouvelle, toujours, c'est le nouvel Homo.
Mais tout ça,
alors qu'un nouveau Hitchcock, il disait c'était juste une nouvelle histoire.
Tous ces éléments-là concourent à faire que le jeu vidéo en tant que médium est justement pas mature et encore loin de l'être.
Non, non.
Mais il le deviendra un jour ou l'autre.
Mais on sera plus là.
Bon, peut-être.
Comment je viens de casser l'ambiance.
Surtout toi d'ailleurs.
Ouais, c'est moi le plus vieux.
Enfin bon, tout ça pour parler du prix du jeu vidéo.
On n'a pas parlé non plus de la consommation en ligne, ni rien. Enfin, du prix.
Et puis surtout, on
n'a
pas parlé quand même
d'une
chose essentielle juste avant de parler de la consommation en ligne, c'est la TVA.
Ouais, alors la TVA,
qui frappe aussi le jeu vidéo, alors pas que le jeu vidéo, bien évidemment, hein, d'autres produits culturels.
Il n'y a que le livre en France
qui
bénéficie d'une TVA préférentielle à 5%.
Voilà.
Tous les autres, c'est 20%.
C'est 20% dans ta gueule.
Donc déjà, tu prends la distrib plus la TVA, ça te fait 65 à 70% du prix.
C'est pour ça que Steam, avec les jeux en dollars, en ce moment, profitez-en. Hein.
Bah ouais, ouais.
Je ne sais pas combien de temps ça va durer.
Sur un jeu à 60€, quand même, ça fait quasiment 15€.
Oui, mais c'est super ça.
C'est quand même super cher.
Un jeu sur Steam à 59$, t'es content de jouer sur PC de temps en temps.
Oui, très, très clairement.
Bon, tu joues pas souvent, mais bon.
Oh tu dis ça parce que t'as cassé le tien et tu l'as pas changé.
C'est vrai.
Bon, pour conclure un petit peu ce podcast, mine de rien, j'aimerais justement faire un petit tour de table, justement, pour voir se projeter un petit peu dans le futur. Quelle est votre vision, un peu comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans les... 10 ans, 15 ans à venir, on va dire la prochaine ou dans deux générations de machines, est-ce qu'on va rester dans un schéma identique? Probablement que la distribution va aussi beaucoup changer des jeux, hein, parce qu'effectivement, il y a la distribution numérique, on le voit avec vraiment PlayStation est en train de miser énormément dessus, Gran Turismo qui était disponible à la fois
c'est
en pack.
Mais je suis pas certain
fois...
que ce sera le plus gros changement à venir. À mon avis, ce sera plutôt dans les méthodes de production, y compris au niveau des coûts et tout ça, que les jeux ils vont essayer de calmer cette frénésie. Déjà parce que Nintendo montre l'exemple qu'ils arrivent à faire du pognon et à toucher un public sans engager autant de coûts de développement et en faisant des trucs qui sont peut-être moins beaux et moins chatoyants.
On pourrait parler de la DS d'ailleurs là-dessus.
Et on pourrait parler de la DS aussi.
Les consoles portables.
Spam.
Mais les consoles portables ont énormément de succès et elles sont amenées à en avoir de plus en plus à cause
de ça. Et c'est là où il y a le plus de jeux qui sont vendus.
Oui.
Ouais, non, mais c'est parce que c'est...
non mais une fois de plus, hein, c'est corrélation, prix moins cher, plus gros public, parce que clairement beaucoup plus gros public. Et voilà, donc est-ce que quelque part vraiment je maintiens ? Est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à tester vraiment des baisses de prix notables, 20%, 25%
Ça a déjà été fait quelques fois.
Ouais, voilà.
Bah, les gammes platinum.
C'est ce que j'allais dire, mais sur des jeux quand même, enfin faut le dire, pourris quoi. C'est-à-dire, nous, quand à chaque fois on teste un jeu, on se dit, oh, putain, il est vraiment pas terrible. Et après, tu vois le prix de vente, tu dis, bon, pour le prix, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur aucun éditeur a osé vendre un blockbuster.
Mais si, les gammes platinum, les gammes.
Non, mais les gammes
prix,
platinum, c'est des jeux.
Attends, c'est de la réédition.
Mais attendez, non, c'est des jeux rentabilisés. Ça veut dire platinum, c'était à partir du tu franchissais le millionième exemplaire, il passait en platinum.
Oui, mais ça reste de la
C'est pas de la réédition, ça veut dire que des platinum arrivaient 6 mois parfois, même beaucoup plus vite.
Mais ça reste 6 mois.
Je suis d'accord, mais ça permettait justement à plein de personnes de goûter à ces jeux-là, qui étaient donc des a priori bons jeux, puisque c'était bien vendu, pas cher, et ouais. Certains jeux comme Beyond Good and Evil ont connu un vrai succès supplémentaire et bien plus important qu'au début grâce à des jeux petits.
J'ai envie de parler juste d'une exception vite fait. Je sais pas si vous rappelez, quand GTA 3 est sorti, GTA 3 est sorti à 40 euros. Vous vous rappelez pas de ça ?
Non.
Et ben voilà, c'était un des arguments de ouf, c'est que le jeu il était juste incroyable.
Et il a cartonné.
Et je sais pas si c'est à cause du prix, c'était plus le bouche à oreille.
Moi personnellement, j'y crois vraiment. S'il avait été à 70 euros, je pense qu'il aurait touché peut-être moins de personnes directement, que le bouche à oreille donc aurait été moins efficace immédiatement, et qu'il n'y aurait pas eu cet engouement. Parce que rappelez-vous, les premiers GTA, on est quand même passé de jeux qui se vendaient petitement à soudainement hein, un phénomène culturel mondial.
Alors, ouais, bon, sûr enfin, que bon, prix... ça s'appelle un phénomène de mode. Non, mais tu vois, les ch'tis, ils ont fait quasiment 20 millions, quoi. Enfin,
plus même.
Tu vois,
plus,
ouais. Non, mais tu vois, enfin, il y a aussi ce côté phénomène de mode, quoi.
Bien sûr, mais la mode, pour qu'elle arrive aussi, il faut qu'il y ait plein de gens qui commencent à en parler et que ça fasse un vrai gros bouche à oreille très rapidement, très rapidement. C'est pas six mois après que tout d'un il y a plein de personnes qui disent oh, c'était pas si mal, parce que du coup, tu n'y goûtes plus. C'est une mèche, il faut un départ de feu, il faut que ce soit direct. Que dès le premier jour, ça cartonne. Oui, les ch'tis, une semaine, ça a été lancé avant, dans le Nord, et ça a cartonné, gros bouche à oreille, et du coup, les gens sont allés le voir.
Donc, c'est pour ça qu'on disait, le platinium, finalement, ça reste du réchauffé.
Mais carrément.
C'est très très bien que les gens puissent y goûter, mais ça reste quand même du réchauffé.
Et c'est pour ça que je reprenais l'exemple de GTA 3, petit prix, est-ce que c'est pas ça aussi qui a contribué
sur ton argumentaire.
Il faut pas oublier aussi toute une frange de joueurs qui jouent beaucoup en occasion. Ce qui ne se fait pas beaucoup dans les ça se fait peu quoi, enfin bon, il y a des gens qui achètent des bouquins ou des CD d'occasion, mais bon, enfin ça se fait moins que
une version poche.
Ouais.
Quelle grande
idée, la réédition
les versions poche,
et mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui jouent à des tarifs préférentiels entre guillemets au marché de l'occasion.
T'as un vrai business sur le marché de l'occasion.
Voilà, il y a un vrai business sur le marché de l'occasion et qui échappe aux éditeurs pour l'instant. S'ils s'en occupent pas du tout et donc s'ils devaient lancer ou s'occuper de gérer des prix inférieurs, ils en ont pas forcément besoin parce qu'il y a ce marché-là qui est un marché gris quoi entre guillemets.
Ouais, il a été repris par Amazon, des boîtes spécialisées là-dessus.
Enfin, les éditeurs sont très contents de pouvoir vendre des jeux et donc de l'argent qui leur tombe dans les poches plutôt que ils aient vendu une fois un jeu qu'il échoue dans 5 mains différentes au fur et à mesure du temps.
Et d'ailleurs avec les maintenant avec les modes en ligne, avec où t'as des céréales, des modes des codes, etc. Mmh. C'est de plus en plus dur d'avoir un marché de l'occasion sur certains jeux parce que ils sont verrouillés sur le premier acheteur en fait. Ouais. Non, mais pas forcément que sur PC. Hein. Maintenant,
il y a peu de céréales quand même sur les consoles.
L'été numéro de code d'ami machin sur Wii, etc. Ça peut être chiant si tu files ton code de ton jeu sur un mec. Je sais pas comment c'est géré à ça à chaque fois, tu vois.
Parce que c'est ton code de ta console et.
Non, t'as un code par jeu.
Bah oui. Ah. T'as le code ami de ta console, mais t'as le code.
Qui joue à Mario Kart Online?
Non, il y a des gens, mais c'est vrai que c'est tellement chiant sur Wii.
En fait, ils jouent pas entre amis. Vu qu'ils
mais t'as le même problème, par exemple, avec les MMO, quoi. Je veux dire.
Les MMO, tu peux revendre tes personnages, mais tu revends ton compte, donc c'est encore différent.
Ouais. Mais il y en a qui ont même fait une plus-value. Hein. Mais bon.
À plein. J'ai des mecs de ma guilde qui ont vendu des personnages 500 euros. Mais bon.
Donc, rapidement, vous me répondez à ma question de tout à l'heure. Comment est-ce que vous imaginez un petit
peu
le.
Je pense que ça baissera pas. Je pense que le mode de consommation va évoluer. Je pense que tu vas avoir effectivement de plus en plus de jeux à série, épisodiques, machin. Tu vas avoir des marchés un petit peu différents comme ça.
Ils vont épuiser à fond toutes les possibilités pour faire du en ligne aussi. Pour transitionner la dépense d'argent, non pas sur le produit lui-même, mais sur sa vie après en ligne.
Donc plein de micro-paiements.
Par les modes en ligne, etc. Les jeux,
services. Plus de services, plus de trucs à acheter à côté. Quoi.
Qui sur le moment ont l'air moins douloureux parce qu'on paye des plus petits prix. Mais au final,
qui ont l'avantage de ne pas être piratables.
Moi, je ne crois pas du tout à la baisse de prix, hein. Très honnêtement.
Angel
crois que ils vont te faire dépenser l'argent différemment.
Non, ouais. je vois pas pourquoi baisser le prix, en fait. Vu que c'est une industrie qui se porte, on l'a déjà dit.
De mieux en mieux.
Franchement, de mieux en mieux. Tu vois, je ne vois pas pourquoi baisser le prix. Quoi.
Pourquoi ils se feraient chier.
Tu vois, c'est comme on dit, c'est ce qu'on dit exactement sur la Wii. Quoi. Tu vois, genre la Wii veut baisser le prix. Mais attends,
tout simplement parce que tous, de Nintendo à Ubisoft, à Electronic Arts, cherchent des vecteurs de croissance supplémentaires. Parce que là, ils ont franchi le premier milliard de joueurs, ils veulent le deuxième milliard de joueurs. Que pour franchir ce gap-là, il leur faut plus que des bons jeux, il leur faut plus que d'autres choses.
C'est ce
que Nintendo a rêvé qu'une révolution de gameplay et aussi une approche de prix, et que ça a cartonné, et qu'à mon avis, il y a des choses qui vont changer à ce niveau-là.
Le vecteur de croissance qu'ils cherchent, d'accord, mais n'empêche que rien qu'en 2007, ça a pris déjà 20%. Donc de la croissance, il y en a encore. Hein. Avant de chercher des nouveaux vecteurs, ils le font maintenant parce qu'ils pensent à après, mais pour l'instant, ils n'en ont pas fondamentalement besoin.
Julot ?
Je pense pas que ça va baisser non plus, non. Non, non. Ou alors pas plus que ce que ça a baissé entre les différentes générations, parce que ça a quand même finalement plus ou moins baissé.
Ça,
c'est, voilà.
Bah, ça a stagné, on va dire.
Ça a voilà, stagné, ça a stagné, ça n'a pas explosé. Ça n'a pas augmenté, quoi, en tout voilà. cas. Voilà. Donc non, je pense pas que ça... Malgré la dématérialisation et tout ça, je pense pas que ça va baisser. Non.
Et ben moi, je
surtout que les coûts de production... Comme on le disait, c'est de plus en plus élevé.
Plus en plus, ouais.
Je pense que le dieu marge va rester là. De toute façon, ça ne peut pas baisser parce que les mecs se rendent compte que ça fonctionne. Ils vont juste trouver des nouveaux moyens.
Ils sont tellement frileux avec des coûts de développement aussi énormes. Ils sont tellement frileux, ils ont peur, tu vois, à mon avis, les gens qui investissent.
Les nouvelles façons de te faire dépenser ton blé, elles vont être là, c'est tout. Peut-être que ça sera plusieurs fois 5 euros au lieu de te demander 70 euros.
Et donc, alors, on est tous contre toi, du coup, parce que finalement, tu penses que ça va baisser.
Très clairement, je pense que d'ici moins de 10 ans, le prix unitaire du jeu qu'on achète, la boîte. Qu'on achète dans le magasin, si les boîtes existent encore, mais, alors, bah, même, si c'est, même si c'est numérique, on va dire l'achat premier sera moins cher qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va baisser, on va arriver plus effectivement dans des zones de 40 euros.
Mais attends, tu triches là.
Et par contre, t'as pas effectivement beaucoup de micro-paiements supplémentaires qui fait que peut-être.
C'est ce qu'on a dit en fait. Hein,
c'est exactement ce qu'on vient de dire si t'écoutais quand on parle.
Non, parce que vous avez pas parlé du prix. Global de l'objet en lui-même.
C'est ce qu'on vient de dire.
Non, parce que finalement, on n'est pas obligé de les acheter, les micro-paiements.
Je me barre. Ce mec, ce host est un as. Allez, ciao.
Vous écouterez. Non, mais parce que par exemple, tu vois, moi, il y a plein de jeux dans lesquels je sais qu'il y a plein de micro-paiements, des oblivions et tout, que j'achète jamais de ma vie. Je m'en fous complètement. Mais en revanche, j'ai payé mon jeu 70 euros. Je pense que bientôt, j'achèterai mon oblivion, on va dire, normal.
Non, je crois que t'as pas compris comment
40 euros.
Je crois que t'as pas compris. 40 euros. Je crois que t'as pas compris que t'auras pas le choix, en fait.
Mais si, parce que je l'achèterai pas. Alors j'aurais peut-être une expérience moins complète, moins riche, mais je l'achèterai pas quand même.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que je ne serais. Si je veux obtenir la même chose qu'aujourd'hui, peut-être qu'au final je paierai plus cher, mais je pense que la majorité des joueurs, qui seront de plus en plus grand public,
passeront du à la carte au lieu du menu, c'est ça ?
Ouais, et qui choisiront le truc de base, et qu'ils iront certains avoir la curiosité d'acheter des petits trucs en plus, mais que ça restera majoritairement les vrais gamers qui achèteront en plus, eux se feront carotter, mais que le grand public ne paiera pas plus cher.
Je crois que tu sous-estimes les éditeurs qui se démerderont pour que tu sois obligé de traquer.
Pas obligé. Mais,
Parce que ça sera intéressant, parce que tu vas vouloir t'abonner à un truc, parce que
c'est tout le véritable intérêt.
Ah, ils te tenteront, mais tu ne seras jamais obligé, quoi.
Ou alors mais il faudra du temps, c'est pas grave.
Je pense vraiment que prends un exemple simple. Je reviens sur un truc très con, le Xbox Live, les mecs, combien il y a de mecs qui n'auraient jamais pensé payer tous les ans 60 euros pour jouer en ligne les jours PC.
Les joueurs PC ont toujours joué gratuitement en ligne.
Il y a tellement de mecs qui sont sur Xbox 360 maintenant.
Et qui sont très contents de payer.
Ils sont ravis. Parce que ça, maintenant, ils reviennent. Putain, je prends l'exemple de Metal Gear Solid, donc de Metal Gear Online. Putain, quand tu veux jouer en ligne la première fois et que tu es obligé de faire ton compte, ton Konami ID, et après ton Game ID, et puis ça marche pas parce qu'il faut bien lire le mot de passe. Putain, mais là tu te dis, mais le Xbox Live, finalement, tiens, vas-y, prends 60 euros, je vais appuyer sur un truc, je veux jouer, m'emmerdez pas. Et c'est vrai, ça marche, vrai. Et ça, c'est sur ce genre de truc-là qu'il faut que tu te méfies pas assez.
Moi, je pense que le grand public veut quelque chose de ultra simple et qu'il n'aura pas fondamentalement la curiosité.
On va lui vendre un truc ultra simple, c'est ça. Ça va être genre, voilà, tu mets ta carte bleue là, tu vas voir, tu vas jouer gratuit, ça va être super.
Le truc, tout est un argument de vente potentiel.
Tu joues gratuit après avoir mis ta carte bleue.
C'est possible. Et c'est ce qui fait que ce sera intéressant justement de le suivre.
Ceci dit, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Nintendo, qui est effectivement montre des possibilités différentes d'approcher un petit peu tout ça avec des modèles économiques moins basés sur des coûts de développement hallucinants, ça va peut-être influencer les gens pour arrêter un peu la course au blockbuster et donc sans pour autant baisser le prix des jeux, que ça leur coûte moins cher ou alors que ce soit mieux réparti. Il y a aussi les subventions d'État qui commencent à se développer dans plusieurs pays.
Ils commenceront à faire des petits efforts qui au début seront de 5 euros. Puis après de 10 euros.
Peut-être, moi, sur un produit par-ci, un produit par-là.
Je pense que c'est technologiquement, les jeux Wii, je pense que tu compares vraiment deux trucs complètement différents. La Wii, c'est pas une PS3, c'est pas une Xbox 360.
Je pense qu'à la fin, d'ici un siècle, les éditeurs te paieront pour jouer. si on suit le raisonnement. Non ?
C'est juste pas possible. C'est juste que la Wii, actuellement, elle a été designée. Ils ont fait le sweet spot, comme on dit. Ils sont sur un prix, sur un marché, sur un timing parfait. Maintenant,
que tout le monde a envie de copier en ce moment.
Oui, mais les mecs, ils peuvent pas. Si tu veux faire ton jeu sur 360 ou PS3, il te coûtera plus cher qu'un jeu Wii, parce que c'est obligé. Parce qu'il te faut plus de mecs pour le faire.
Sauf si tu fais un jeu indé,
un visuel à la Wii.
Mais tu le mets sur le Xbox, sur l'Xbox Live,
c'est du jeu indé. Mais il y a tout un marché qui se développe là-dessus aussi, c'est pareil. Il y a 5 ans, on n'aurait pas cru que ça pourrait marcher.
Putain, mais excuse-moi, mais je vais en dire, ça me fait chier. T'achètes des jeux indés, t'as vu la
qualité. Bah ouais, j'ai acheté Lost Winds par exemple.
Excuse-moi, mais je m'éclate avec MGS4, je suis content que mes
soucis. Moi aussi.
Tu vois, les jeux indés, les trois quarts, mais 90% des jeux indés, c'est de la merde. Faut quand même le dire.
Bah, c'est vrai, mais c'est 90% des jeux pas indés, ça peut être de la merde aussi. Tu
veux dire, sortie des shoots extraordinaires qu'il y a eu sur l'Xbox Live ou même d'un Super Stardust HD, des ovnis comme ça qui sont vraiment bien et qui ont vraiment coûté que dalle à faire. Putain. C'est quand même pas terrible quoi.
Moi je trouve qu'il y en a pas mal pour le début par rapport aux merdes qu'on se cogne à plein tarif.
Les gars, ça vous dirait pas qu'on en parle dans un autre podcast sur les jeux indépendants, parce que moi je veux bien, hein, mais c'était le prix des jeux vidéo. Et puis finalement, on a dit pas mal de choses. Hein.
Ouais, voilà.
Et puis ce qui serait intéressant justement, c'est de suivre. Hein, voilà, vous avez vu nos opinions, nos pistes, nos idées. On verra bien dans 10 ans, dans 15 ans, qui aura vu le plus juste. On sera même probablement surpris. Peut-être qu'il y a plein de choses dont on est en train de parler. De numérisation, etc. Peut-être qu'on sera radicalement autre chose, peut-être qu'il n'y aura plus qu'une console.
Peut-être qu'il n'y aura plus vraiment de jeu, qu'on achètera des univers.
Peut-être que l'humanité aura été effacée, on ne sait pas, et c'est ça qui est intéressant.
Effacée.
Et ça prouvait bien qu'il était intéressant de parler du prix et des jeux vidéo. Beaucoup de choses à dire, et puis en tout cas, une seule certitude, c'est qu'on va continuer quand même à les payer pendant encore un sacré bon bout de temps.
Oh oui.
Parce qu'il y en a quand même des pas mal dans le lot.
Hein. Heureusement.
Et que les 10% qui sont bons sont vraiment exceptionnels. Et qu'en ce moment, quand même, franchement, il y a du lourd. Hein. Quels que soient les styles de jeu et les consoles que vous ayez chez vous. Bon, sur ce, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast exceptionnel avec Hideo Kojima.
Incroyable.
Le mec qui craque, il est en boucle. La machine. Voilà, on vous quitte. On vous dit à mercredi prochain. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao, ciao.
Bye bye.
Salut.